Le débat du jour.
Loïc Bussière.
L'essentiel, c'est de participer. On connaît ces mots prêtés à Pierre de Coubertin, mais le père des Jeux Olympiques modernes était sans doute loin de se douter que plus d'un siècle plus tard, obtenir un ticket d'entrée à l'arène des compétitions serait déjà en soi une épreuve. Participer aux Jeux Olympiques à compter des Jeux de Tokyo l'an prochain, ce sera une possibilité, une réalité pour d'autres sports que les 28 inscrits au programme officiel. Ils seront 5 au Japon, vraisemblablement 4 à Paris en 2024. Oui, parce que le comité d'organisation pour Paris 2024 a donné en fin de semaine dernière sa liste des sports additionnels, une liste qui reste à valider par les plus hautes instances olympiques, mais où la présence du breakdance, au détriment du squash, du karaté ou encore de la pétanque, continue de faire grincer quelques dents parce qu'il serait moins un sport qu'un art, parce qu'il ne frappait pas à la porte des Jeux depuis des années, contrairement à d'autres, parce que son choix serait l'illustration de critères moins sportifs que politiques, financiers ou encore sociétaux. Et certains de s'interroger sur ces fameux critères de sélection pour les disciplines olympiques. Respecte-t-il justement les règles du jeu ? C'est la question que l'on se pose ce soir avec nos invités. Nous invités Francis Didier, président de la Fédération française de karaté. Bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Nicolas Chanava, vous êtes chercheur en marketing du sport à l'Université Paris Sud. Je prends mon souffle parce que vous avez plusieurs fonctions. Vous êtes également vice-président de l'Académie olympique française et responsable du Centre d'études olympiques français. Francis Didier, je me tourne vers vous pour la première question. Depuis un peu plus d'une semaine, vous êtes le président d'un futur ex-sport olympique. Et dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ?
Pour l'instant, très bien, parce que la fédération de karaté va pas s'éteindre ou changer sa politique. Mais l'annonce était quand même assez difficile à recevoir, et je pense surtout aux athlètes, parce que vous pouvez pas dire dans la forme à des athlètes qui vont participer à Tokyo 2020 et ils ont même pas fait leur prestation qu'ils sont déjà dehors pour 2024. Ça, dans la forme, c'est pas très judicieux.
Alors, on explique que le karaté va pour la première fois être sport olympique à Tokyo, donc en 2020, en tant que sport additionnel. Un sport additionnel, par définition, il peut faire l'objet d'une soustraction. Vous étiez pourtant consciente, ça.
Oui, ça. C'est pour ça que je pense que le Kojo Paris 2024 aurait pu faire une liste de 5-6 sports et laisser, comme il l'avait dit dans le programme, que le CIO choisirait après. Donc après les Jeux de 2020, ça laissait quand même les athlètes aller sur Tokyo 2020, puis d'avoir une décision après. Donc dans la forme, j'insiste un peu là-dessus, c'est un peu difficile pour eux.
Nicolas Chanava, donc cette règle des sports additionnels que l'on peut retirer à l'envi selon la volonté des organisateurs de Jeux Olympiques, d'une épreuve olympique, est-ce que vous la trouvez juste précisément ?
Alors, au-delà de savoir si elle est juste ou pas, il y a surtout des règles, il y a surtout un processus à suivre, et le Kojo Paris 2024, pour le coup, l'a bien suivi afin de déterminer les 4 sports additionnels. Le Kojo, il a fait quoi? Le Kojo, dans un premier temps, il a écrit à toutes les fédérations internationales, qui sont reconnues par le CIO. Et puis ensuite, il a échangé avec les 37 fédérations candidates mondiales, depuis les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui ont été discutées, échangées, et notamment par rapport au breakdance sur lequel on reviendra, j'imagine, d'ici quelques minutes. Je pense que ça a été déterminant. Et puis ensuite, les fédérations ont été reçues afin d'expliquer leur projet au COJO, d'expliquer dans quelle mesure ils pouvaient s'inscrire dans la vision aussi de Paris 2024 et dans quelle mesure ils pourraient apporter une forme de plus-value. Et vous l'avez dit, voilà, ça reste hypothétique. Le CIO doit valider le choix de Paris 2024 à la fin de l'année 2020, après les JO de Tokyo. Donc, même s'il y a un infime espoir, on en parlait avec Francis juste avant l'émission, tout reste possible, même si évidemment ça va être compliqué.
Alors pourquoi on a quand même l'impression que, vous me passerez le mauvais jeu de mots, que les Jeux sont faits en ce qui concerne les sports additionnels de Paris 2024. On rappelle 5 sports additionnels donc à Tokyo, le karaté on en parlait, le baseball, softball, le surf, l'escalade et le skateboard. Les 3 derniers ont été retenus donc pour Paris. S'ajoute le breakdance, on a l'impression quand même que même s'il reste des cases à cocher en termes de parcours olympique, on a l'impression que tout est fait, non, Nicolas Chanava ?
Le Kojo Paris 2024, c'est une marque. c'est une marque qui est une marque à part entière, qui est en pleine construction. C'est une marque qui souhaite se démarquer des précédents Cojo, qui ont été mises en place précédemment. Et cette marque-là a fait un choix stratégique. L'idée, c'est de se distinguer par rapport aux autres Cojo. Donc, elle a été décidée de jouer la carte jeunesse avant tout. Cette stratégie, elle s'intègre bien d'ailleurs dans la stratégie globale de rajeunissement du Comité international olympique. Et à l'heure où les amoureux de l'olympisme et des Jeux, d'ailleurs, vieillissent, selon les études marketing qui ont pu être réalisées, l'objectif numéro un, c'est de toucher, c'est de parler à la cible jeune. Donc ces choix de sport additionnel de Paris 2024, ils peuvent s'expliquer aussi à travers cet élément central qui en découle. Des jeux spectaculaires, des jeux innovants, des jeux connectés, avec également une dimension urbaine, artistique, pleine nature. Voilà, donc c'est tout ça aussi qui a certainement guidé le Cojo à faire ce choix.
Francis Didier, une réaction ?
Oui, mais je pense que les choix étaient faits déjà avant sur Buenos Aires. Hein.
Buenos Aires, donc c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse.
De la jeunesse, oui. Ouais. La jeunesse, oui. Il y a aussi, on l'a dit, les Jeux Olympiques un peu vieillissants, oui, et surtout les ressources des droits télé. Donc il y a des concurrents, il y a X Games, il y a le FIS, donc les sports extrêmes. Donc on est en train de parler de spectateurs et non pas forcément de pratiquants. Il faut rappeler aussi que lorsqu'il y a eu le choix pour 2016 pour les sports additionnels, d'abord le Toko, c'est-à-dire le Cojo de Tokyo, a proposé donc le baseball et le karaté en tant que sport traditionnel pour eux, puisque le premier sport au Japon, c'est le baseball. Nous, en France, si on dit c'est quoi le sport traditionnel, le sport traditionnel, c'est le football, c'est le plus pratiqué. Et ensuite... c'est le CIO qui a fait un petit peu l'appel du pied pour avoir trois sports supplémentaires. Donc, comme vous l'avez dit, le climbing, le skateboard et le surf. Donc, on retrouve la même logique maintenant, puisque il y a eu quand même un échange, une visite de Tony Estanguet et puis de Jean-Philippe Gatien la semaine avant à Lausanne.
Donc, les discours. Sont à la tête du Cojo, du comité organisateur des Jeux de Paris.
Les discours n'étaient plus les mêmes. C'était difficile de parler avec le CIO. Bon, d'accord, mais c'est une entente. Hein. Moi, je vais pas croire au jeu de la balle de ping-pong. C'est pas moi, c'est lui. Donc tout le monde veut changer dans le CIO, avoir, comme vous le dites, un aspect plus jeunesse. Mais en fait, nous, on avait rempli la case de jeunesse puisqu'on a 120 000 jeunes. C'est un sport qui est extrêmement pour les jeunes. Donc,
qu'est-ce qu'on vous dit, vous, justement, en tant que président de fédération sportive, avant cette décision du Cojo? On vous dit, vous inquiétez pas, tout va bien, vous remplissez les cases, comme vous dites, c'est-à-dire vous avez plein de pratiquants jeunes, vous êtes un gros fournisseur de médailles en France, vous avez beaucoup de pratiquants, on vous dit tout va bien?
Oui, alors ça, sur les médailles, je ne comprends pas non plus, parce que c'est pas la décision du Cojo d'avoir des médailles. Parce que moi, j'avais obtenu de la Fédération mondiale d'avoir dans les huit catégories, les huit qualifiés d'office. C'est-à-dire que les jeunes allaient se qualifier par eux-mêmes en marquant des points sur la ranking list, mais les places sont acquises. Donc, des places acquises pour les Français, c'est au moins 4 médailles d'or. Voilà. Donc, en ce qui concerne toutes les cases qu'on a remplies, oui, on est bien dans... Mais il semble que la règle ait été changée en cours de route.
Nicolas Chanava, est-ce que là, pour le coup, on parle de changement de règle, d'entorse au fair play?
Disons qu'il y a des prérequis pour être sport additionnel, pour être une pratique olympique. Il faut d'ores et déjà être pratiqué dans 50 pays sur 3 continents différents pour les hommes. Et s'ajoute à ça le fait d'être pratiqué dans 35 pays et 3 continents pour les femmes. Et après, il y a 33 critères qui sont très très précis en termes d'universalité, de popularité, également d'image de marque, mais également en termes de coûts. Donc ça renvoie à 3 gros items. La dimension sportive, bien sûr, les caractéristiques sportives. La dimension économique, financière, sur laquelle on reviendra, j'imagine, aussi. Et puis en termes d'image. Voilà, donc. Et fort de tout ça, de l'ensemble de ces critères, il y en a, selon moi, certains qui ont véritablement guidé de manière prépondérante le choix du Cojo. Donc j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, de l'idée de rajeunir la marque CIO, de parler davantage aux jeunes, d'être en phase avec leur style de vie. Ça peut expliquer certaines des pratiques sportives qui ont été retenues. Et également l'idée de durabilité, pas de nouvelles structures, pas de nouvelles constructions. C'est pour ça que le surf, par exemple, peut s'expliquer, le choix du surf. Le nombre d'athlètes aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Pour Paris, l'idée, c'est d'avoir 10 500 athlètes. Il y en aura 11 000, par exemple, à Tokyo. Donc, ça mettait de côté certains sports collectifs, par exemple. Ça peut expliquer aussi le choix. Bah, le breakdance, par exemple, c'est qu'une poignée, finalement, d'athlètes. On en parle beaucoup, mais ça représentera, finalement, un contingent très, très faible.
On peut vous répondre aussi que c'est qu'une poignée de pratiquants. En termes de licenciés en France,
5 000, quand on met ça en parallèle avec les 300 000 licenciés de la Fédération de Karaté, c'est sûr que ça peut poser aussi des questions. Et puis juste pour terminer sur les critères qui, à mon sens, ont été prépondérants, c'est l'idée de sortir du stade, d'avoir des pratiques qui sortent des structures habituelles du stade très concrètement, et puis de créer cette fameuse passerelle entre le sport et la culture.
Vous évoquiez justement les réseaux sociaux, le côté sport connecté. Est-ce que vous êtes allé faire un tour justement sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se dit de la décision de retenir le breakdance en tant que sport olympique, parce que les commentaires sont assez fleuris, voire franchement ironiques.
Qu'est-ce que vous avez pu lire dans ce sens-là?
Je pense les mêmes choses que vous, si vous vous êtes penché dessus. Les gens sont globalement, on va dire, très étonnés de ce choix.
Très concrètement, pour moi, sans langue de bois, c'est vraiment la surprise du chef. On l'a dit, l'escalade, le skateboard, le surf, il faisait déjà partie finalement des, Francis l'a dit, des pratiques qui seront au menu de Tokyo. Donc, encore une fois, le Kojo 2024, c'est une marque. Il s'agissait de se différencier. Il fallait marquer le coup. On prend le karaté, ouais, le karaté c'est super, on coche toutes les cases, on est au top. Moi évidemment je suis breveté d'état de karaté, alors j'aurais tellement souhaité que les karatékas de mes clubs de cœur, du dojo de Villars ou du Kyukai puissent supporter, bah tiens par exemple une ancienne étudiante de mon master, Adler Florentin, pour le Kojo ici à Paris. Et ah oui, la grande équipe de France. Voilà, donc le karaté, selon moi, il a tous les ingrédients pour être pérennisé comme sport olympique. Mais il y a d'autres pratiques également. Et puis il y a toute cette question de lobbying là aussi qui reste quelque chose de très sacré. On a du mal à mesurer l'impact du lobbying. Où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête?
Vous pensez qu'il y a eu un énorme lobbying de la part du breakdance ou que?
Pour le coup, on peut même se poser la question de savoir qui a le plus besoin de l'autre. C'est-à-dire est-ce que le breakdance, finalement, a tant besoin de ça, des JO? Est-ce que c'est pas l'inverse? Je pense que les deux s'auto-alimentent. En revanche, je pense que le karaté aurait dû, depuis, si on parle de karaté, être olympique depuis longtemps. Et peut-être qu'il a pâti de l'arrivée du taekwondo. C'est une question vraiment qu'on peut se poser. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, ma remarque.
Et quand vous parliez du lobbying, justement, le taekwondo a, lui, profité du lobbying du représentant du CIO de l'époque, de la Corée du Sud, qui était aussi président de la Fédération de taekwondo.
Au début des années. Et qui est devenu le vice-président du CIO. Ouais.
Comment, Francis Didier, vous, en tant que président de fédération sportive, vous recevez ces arguments qui sont plus de l'ordre du marketing, justement, que l'ordre de la compétition sportive?
Moi, je peux arriver à le comprendre, mais lorsque le CEO dit il y a 10 500 athlètes, donc ça, c'est un cadre que je donne comme limite, il n'y en aura pas 10 501, ça, on le savait. Donc, pour Tokyo, il y aura 500 sports additionnels, donc 500 athlètes supplémentaires. Mais s'ils veulent changer un petit peu le programme, ils peuvent réduire dans chacun des 26 sports, des catégories ou des petites disciplines qu'on pourrait réduire et puis donner une place supplémentaire pour des sports additionnels. Bon, ça n'a pas été calculé comme ça. Enfin, nous, on le voit comme ça de notre pas de porte, hein. À l'intérieur, je ne sais pas comment eux, ils le perçoivent.
Nicolas Chenava, vous parliez justement de volonté, de rajeunissement des Jeux Olympiques. Les Jeux, ils ont tant besoin que ça, d'être rajeunis?
Les études marketing le démontrent, effectivement. Qui consomme aujourd'hui le produit Jeux Olympiques? Eh bien, ce sont des personnes qui, les amoureux des JO, ce sont des personnes, effectivement, qui arrivent à avoir un certain âge. Donc l'idée, ça a été dans un premier temps de proposer d'autres produits par le CIO. Les Jeux Olympiques de la jeunesse s'inscrivent très clairement dans cette dynamique-là. Donc il concerne les jeunes et plus encore l'idée de pouvoir, donc je pense que c'est l'étape numéro 2, c'est de pouvoir, le deuxième étage de la fusée, de pouvoir intégrer très clairement des sports ultra connectés, des sports, si on reprend les chiffres, c'est quand même vraiment très significatif, hein. Si on reprend par exemple l'escalade, 40% des pratiquants ont moins de 18 ans. Si on prend le skateboard, là aussi, c'est des chiffres qui montent dans ce sens-là. Si on reprend le breakdance, ça va dans la même dynamique avec 80% des pratiquants qui ont moins de 18 ans. Donc ça, voilà, tous ces éléments-là m'amènent à penser qu'effectivement, il y a vraiment cette volonté, encore une fois, de rajeunir la marque du CIO, et les COJO sont des outils qui permettent de pouvoir modifier cette marque globale-là.
Mais pourquoi, dans cette logique justement de rajeunissement, en tout cas de faire monter une marque, pourquoi ne pas plutôt valoriser la marque des Jeux Olympiques de la Jeunesse ?
Mais je pense que les deux sont intimement liés, et que, encore une fois, le COJO Paris 2024 avait cette nécessité de se différencier des autres COJO. On devait marquer le coup. D'ailleurs, le COJO 2024 s'est aussi différencié, ça ne vous a pas échappé, avec cette idée de pouvoir mettre le fan aussi au cœur de l'événement. À travers une vraie expérience, on va pouvoir faire le marathon. Alors, on ne connaît pas encore exactement tout le dispositif, mais on va pouvoir, dans à peu près les mêmes conditions que les athlètes, courir le marathon. On va pouvoir aussi être opposé à travers le numérique à des athlètes aussi de haut niveau. Donc il y a cette idée de se distinguer, de se rapprocher aussi de certaines populations. Oui, d'une part à travers les Jeux Olympiques de Jeunesse, mais aussi voilà sur l'événement numéro 1 de la marque CIO, c'est les Jeux.
Puisque vous parliez de marque et donc forcément de poids financier, est-ce qu'on peut considérer justement que celui de poids financier du karaté dans le monde, il est négligeable ?
J'écoutais aussi des critères sur 3 continents, nous, et sur 5 continents. Mm-hmm. Donc, on a une population qui est énorme dans la pratique mondiale. Lorsqu'on fait un championnat du monde, je pense celui de 2012, on remplit Bercy. Donc ça, c'est nos clubs. Certes, c'est notre public. Bon, il faut peut-être aller chercher un autre public pour le karaté aussi.
A priori, ce ne sont pas les critères sportifs qui vous ont fait défaut. Là, on l'entend bien, ce ne sont pas les critères sportifs.
Mm. Ouais, ni les critères de public. On attire beaucoup de public dans nos compétitions.
Je pense sincèrement que le karaté ne pouvait pas mieux faire. On pourra peut-être en parler avec Didier à l'issue de l'émission, mais je suis sûr qu'ils ont tout bien fait. Les champions étaient rendez-vous pour la présentation devant le COJO. Laurence Fischer, je crois.
Gilles Cherdieu.
Enfin bref, tout a été fait. Simplement, à un moment donné, la marque. Enfin, il y avait une direction qui a été prise et il fallait se différencier, marquer le coup, changer les habitudes, casser les codes et c'est ce qui a été fait. Pour le squash, j'ai beaucoup d'affection pour la Fédération française de squash.
Oui, parce qu'on parle que du karaté là pour le coup, mais il y a d'autres sports qui sont importants.
Il y a d'autres sports. On peut en parler. La pétanque, le squash, ils ont fait un carton aux Jeux Olympiques aussi de la jeunesse. Ils avaient un cours vitré avec un mur interactif qui permettait de découvrir la pratique pour les néophytes. Donc ça répondait aussi aux attentes du CIO en proposant des animations innovantes, de pouvoir attirer de nouveaux publics. En termes de durabilité, ben là, il n'y a pas de problème non plus pour le squash. L'épreuve serait déroulée à Paris sur un seul court vitré, mais à la disposition en plus de la fédération. Enfin, bref, il cochait également toutes les cases.
Ce qu'on peut dire pour résumer cette situation, c'est que de toute manière, étant donné qu'on parle de choix, il y a forcément des déçus dans les choix. Ce qui pose question, en revanche, c'est la motivation de ce choix. Et là, on sort très très clairement des motivations sportives. Quand vous évoquiez cette marque CIO, ce rajeunissement, pour ne pas dire une course au jeunisme des Jeux Olympiques. Nicolas Genevard, vous êtes pensif.
Oui, non, tout simplement. Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Très clairement, il y a une marque qui a été... il y a une stratégie de marque qui a été définie. Et à partir de là, l'idée, c'est de nourrir cette stratégie-là à travers l'ensemble des champs en termes de sport. Mais le karaté n'a pas à rougir, je pense, de tout ce qu'il a pu faire au niveau mondial. Le squash non plus. On n'a pas parlé de la pétanque non plus, mais la pétanque avait un super dossier. Ils auraient pu très bien aussi, un sport traditionnel, qui aurait pu très bien aussi se retrouver en tant que sport additionnel. Il fallait faire des choix, et les choix ont été faits par... le COJO 2024. Mais encore une fois, c'est pas fini.
On suivra justement les prochains épisodes, le prochain épisode en tout cas, à savoir la décision du CIO concernant ces sports additionnels. Merci à vous, messieurs, merci d'être venus jusqu'à nous. Francis Zillier, président de la Fédération française de karaté. Nicolas Chenavat, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Académie olympique française et responsable du Centre d'études olympiques français.